تطبطبطبطبيني تطبطمصي تيني زماني الغايب عالحياة الفرحة تطبطبطبطبيني تطبطمصي تيني زماني الغايب عالحياة الفرحة.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine littéraire, musical et désormais plus généralement culturel. Nous avons désormais rendez-vous chaque semaine et pour compléter l'offre Rock and Page, à savoir littérature et musique, désormais vous avez aussi rendez-vous une fois par mois avec Bibliomanu et les littératures Polar et SF, une autre fois par mois avec Mademoiselle Amo qui elle offre une sorte de... elle est une sorte de couturière sonore comme ça, brodant autour d'un mot d'un seul, et enfin une fois par mois, Catherine Rochette, et c'est le cas aujourd'hui, nous emmène au cinéma. Avant de lui ouvrir le micro de l'émission, moi j'ai choisi de vous causer d'un roman court mais à l'effet surpuissant, un roman qui s'intitule « Le dernier gardien d'Ellis Island », un roman signé Gaël Josse et publié aux éditions Noir sur Blanc dans leur collection Notabilia. Et comme je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour vous donner envie de le lire, ce court roman percutant, d'ici quelques minutes, Gaël Josse en personne répondra à toutes mes questions. Avant d'entrer dans l'univers du dernier gardien d'Ellis Island, avant aussi de laisser la main à Gaël Josse aux platines, et oui, je vous expliquerai ça tout de suite après, laissez-moi vous dire direct dans les oreilles comment je me suis sentie, moi, à la fin de la lecture de cet incroyable journal.
New York, I love you. But you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a rat in a cage, pulling minimum wage. New York, I love you. But you're bringing me down. New York, you're safer, and you're wasting my time. Our records all show you were filthy but fine. But they shuttered your store. When you open the doors to the cops who were bored once they'd run out of crime. New York, you're perfect, oh please don't change a thing. Your mild billionaire mayor's now convinced he's a king. And so the boring collect, I mean all disrespect. In the neighborhood bars I'd once dreamt I would drink. New York, I love you, but you're freaking me out. There's a ton of the twist, but we're fresh out of shout. Like a death in the hall that you hear through your wall. New York, I love you, but you're freaking me out. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a death of the heart. Jesus, where do I start? But you're still the one pool where I'd happily drown.
Maybe all right. And I
Voilà, ça c'était LCD Sound System et leur génie pour dire d'une certaine manière New York et pourquoi ce titre et sa dimension larmoyante est prouvée pour le moins et si juste à la fois, eh bien pour toutes celles et ceux qui savent cela de New York ou des États-Unis en tout cas. Parce qu'il est aussi là le propos du roman de Gael Joss, le dernier gardien d'Ellis Island. Ellis Island, pour vous resituer, était au 19e et puis au 20e siècle une citadelle. Devenue ensuite prison, mais ici, dans ce roman-là, une citadelle, soit encore un camp d'immigrés. C'était là qu'arrivaient les bateaux chargés d'immigrés, eux-mêmes chargés d'espoir de pouvoir enfin échapper à des situations intenables dans leur pays. Gael Joss nous pose, nous lecteurs, dans Ellis Island en 1954, exactement, avec pour guide John Mitchell, directeur en errance, dans la citadelle désormais vide, fermée, en passe de l'être définitivement. Et pour nous dire absolument tout le labyrinthe des vies qu'il a croisées ici, et de quelle façon belle ou abjecte il les a croisées, ces vies, elle nous ouvre, Gael Joss, son carnet intime, son journal, pour être plus précis, à ce directeur de camp d'immigrés, désormais fermé, qui est John Mitchell. Parce que voilà, John Mitchell est là, et tout est là, à l'heure de la fermeture du camp, voit sa vie basculer par la naissance des fantômes. Face aux cohortes d'immigrés défilant devant lui, attendant d'être examinés sous toutes les coutures et interrogés maintes fois, John Mitchell a abusé de son pouvoir et a percuté trois destins. Sauf que la vie est ainsi faite, l'heure de l'addition sonne, John Mitchell se doit désormais de les affronter, enfermé dans son île, enfermé dans son journal, enfermé tout court. Le texte est écrit dans la plus grande sobriété, mais la tension y est présente tout du long, rendant la lecture presque, on la ferait presque en apnée, précis, juste et urgent. Et vous savez quoi ? Gael Joss, au tout début du livre, dans les pages consacrées aux remerciements et autres mentions obligatoires, nous indique qu'elle a construit, en plus de ce livre, un Tumblr. Tumblr qu'elle a consacré au lieu historique que fut Ellis Island. Elle y a déposé des photos, de la poésie, et je vous le donne en mille, de la musique. De là à dire que c'est la musique qui résonna tout au long de la conception de son roman, il n'y a qu'un pas. De là à dire que tous les titres que vous entendrez dans ce Rock'n'Roll Page, à part le LCD Sound System que j'ai choisi moi, il y a un pas de plus. Alors, eh bien, remettons nos oreilles à Gael Joss en personne avant de la recevoir en interview pour qu'elle nous dise, sans les mots, son roman.
Yeah.
C'était Givra Feidman, choisi par Gaël Josse pour évoquer l'écriture, l'histoire, l'univers de son dernier gardien d'Ellis Island, son roman paru chez Notabilia et dont il est question aujourd'hui dans Rock and Page. Et pour vous en parler bien mieux que moi de son roman, j'ai l'immense honneur d'accueillir ce jour dans Rock and Page Gaël Josse. Gaël Josse, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock and Page.
Bonjour, merci à vous.
Alors dites-nous un petit peu comment est né ce roman dans votre bibliographie.
Alors, le dernier gardien d'Ellis Island, là, qui est paru début septembre, il est venu tout simplement et tout naturellement d'un immense choc émotionnel que j'ai eu en visitant, il y a 2 ans, Ellis Island, cet îlot dans la baie de Manhattan, à côté de la Statue de la Liberté, qui était jusqu'en 1954 le passage obligé de tous les immigrants qui venaient d'Europe. 12 millions de personnes y sont passées, arrivant par bateau et se demandant s'ils seraient admis ou non à franchir la porte d'or. Et c'est un lieu que je visitais sans aucune arrière-pensée d'écriture. Et j'ai été complètement happée, bouleversée par ce lieu. C'est vraiment un endroit qui porte le souvenir de tous ces exils, de tous ces destins, de toutes ces histoires de vie. On a l'impression que les murs vibrent, résonnent de toutes ces histoires, qui s'est écrit là une page de l'histoire de l'humanité. Et quelques semaines après, je n'avais toujours pas d'intention d'écriture, et bien des personnages sont venus incarner un petit peu cette histoire. Ça s'est mis en place et c'est parti. Voilà.
Alors, d'ailleurs, avant d'y venir aux personnages, moi je dirais bien que l'île, le camp, en soi, en sont des personnages.
Oui, c'est vrai que c'est cette île qui est devenue aujourd'hui un lieu un peu déserté, un peu fantomatique, une sorte de... C'est Georges Perec qui disait qu'il s'agissait d'un non-lieu. Et on le ressent complètement parce que c'est un temps et un lieu suspendu. On n'est pas complètement à New York, mais on n'en est pas très loin. Et je pense que pour les migrants qui arrivaient là, ils n'étaient pas encore américains, mais déjà, ils n'étaient plus les mêmes que quand ils étaient partis. Ils s'étaient déjà dépouillés de quelque chose. Donc c'est vrai que c'est un endroit un petit peu, je dirais, extracteur d'identité et régénérateur vers une autre identité. C'est très particulier, en effet, ce lieu qui est très fort, oui.
Alors, la jeune Sarde, l'écrivain hongrois et l'anarchiste, ces trois portraits, ces trois personnages vont conduire John, le narrateur, le personnage principal, qui, lui, a été choisi pour protéger les États-Unis d'Amérique, choisi pour sa capacité à faire exécuter la règle, oui, vont le pousser à toutes les transgressions. Enfin, c'est leur rencontre. Et je dirais que c'est là le thème majeur de votre roman, la transgression. Est-ce que vous serez d'accord avec ça?
Oui, tout à fait. J'ai imaginé ce journal, voilà, d'un homme, celui qui aurait pu être ce dernier gardien, resté seul sur l'île, un peu devenu un capitaine de vaisseau fantôme, qui va remonter le cours de sa vie et s'interroger sur tous ces vertiges qu'il a eus, sur ses destins, dont certains ont ébranlé sa confiance et sa vie personnelle, sa vie d'homme. Il y a un séisme amoureux qui a été une première transgression, et d'autres drames ont suivi et l'ont amené en effet à trahir tout ce qu'il était censé protéger. Voilà. Je me suis demandé comment finalement un homme qui incarne la loi, la règle, l'ordre, va être amené, pour des raisons personnelles qui à un moment vont le dépasser, comme ça peut nous arriver à tous dans nos vies, à transgresser, à faire ce pas de côté qui parfois peut être un pas vers l'abîme, mais aussi un pas vers une plus grande humanité. Il va aussi s'humaniser, s'ouvrir. Voilà. Il y a de la tragédie, mais en même temps, il y a une ouverture vers une certaine compréhension, une certaine empathie par rapport à tous ces destins brisés quand même.
Et évidemment, le journal est taillé parfaitement pour nous permettre, à nous lecteurs, la plongée à l'intérieur du labyrinthe que renferme Mitchell.
Oui, c'est vrai que le journal intime de cet homme resté seul me semblait une forme assez, assez classique, mais finalement assez libre, qui permet des allers-retours, qui permet d'inclure d'autres histoires, et qui permet surtout à cet homme de remonter le cours de sa vie et d'arriver jusqu'au moment de vérité avec lui-même. Parce que c'est ça qui m'intéresse avant tout, c'est les personnages, plus que finalement les péripéties d'une histoire. C'est de savoir tel personnage qui, voilà, un jour apparaît, dans lequel je vais m'impliquer très fortement, auquel je vais prêter des éléments de ma propre histoire, voilà, va finalement errer dans son labyrinthe, comme vous l'avez dit, dans son dédale intérieur, jusqu'au moment où il va croiser son miroir. Voilà. Quel homme ai-je été? Quelle vie ai-je été? Ai-je mené? Quel choix ai-je fait? Qu'ai-je donné? Qu'ai-je trahi? Qui ai-je aimé? Ai-je assez aimé? Voilà. Un petit peu ça paraît comme ça, un petit peu les grandes questions, mais finalement, c'est difficile, je crois, un jour, de faire l'économie de ces questionnements dans sa vie.
Et finalement, c'est une véritable mise en abîme que vous nous proposez, parce que ce que dit très fort votre texte, en tout cas, enfin ce qui m'a dit à moi, au-delà du thème de la transgression, c'est qu'on se construit tous de la rencontre et que ce sont ces mêmes rencontres qui nous éclairent sur nous-mêmes et qui peuvent nous faire vaciller et faire vaciller nos certitudes. Et ça, moi, je dirais bien que c'est aussi l'essence de l'écriture et donc de la lecture.
Oui, 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 que complètement, d'arriver à être à un moment perméable au doute, à la remise en cause, à être dérangé, à être bousculé. C'est vrai que ça a été le destin de cet homme, mais c'est aussi, je pense, nos destins à nous, et que c'est toujours par la rencontre avec l'autre qu'il va se passer quelque chose. Il peut se passer beaucoup de choses dans la réflexion intérieure, dans la solitude, mais pour moi, c'est toujours la rencontre avec l'autre, avec le regard, avec le visage, avec la croisée de deux chemins de vie qui finalement va être plus vrai et nous aider en effet à aller vers plus de vérité, voilà, envers nous-mêmes et envers autrui. Oui, je crois complètement.
Gaëlle Josse, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation dans Rock'n'Page. Ma dernière question, que vous a révélé l'écriture de ce texte sur vous-même ?
Sur moi-même, eh bien, je dirais l'exploration de cette idée de transgression, de trahison que je n'avais encore jamais explorée, et puis la plongée dans un univers complexe, plus complexe que mes livres précédents sur le plan de la narration, avec toute cette épopée collective, cette histoire collective dans lesquelles vont émerger quelques destins individuels qui finalement vont incarner l'histoire. Et ça aussi, c'était nouveau, ça m'a surpris, ça m'a bousculé. Et puis, comme je vous le disais, il y a aussi des choses très personnelles, bien sûr, qui viennent s'insérer, sinon on raconte une histoire, hein, et ça n'a pas un intérêt majeur. Écrire un livre, c'est vraiment s'engager très fort avec ce qu'on est.
Merci, merci infiniment.
Merci à vous.
La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane, e dolente ognun si partì. Sotto l'acqua che cadeva al rovescio grandinavano le palle nemiche, su quei monti, colline, gran valli si moriva dicendo così: o Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. O vigliacchi che voi ve ne state con le mogli sui letti di lana, schernitori di noi carne umana. Questa guerra ci insegna a punir. Voi chiamate il campo d'onore questa terra di là dei confini. Qui si muore gridando assassini. Maledetti sarete un dì. Cara moglie, che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel cuore. O Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per tutti non fu.
Voilà, ça c'était pour vous dire une toute dernière fois ce roman magnifique signé Gaël Josse que nous venons de recevoir et qui s'intitule Le dernier gardien d'Ellis Island. Et comme aujourd'hui on a décidé d'aller de bonne surprise en bonne surprise dans Rock'n'Page, je laisse mon micro à Catherine Rochette qui va vous enlever, histoire de vous emmener au cinéma, voire même au Brésil je crois. Attachez vos ceintures, ça part de là.
Pour ma part, en ce moment, les films à l'affiche ne m'intéressent pas. Cinéma du réel, documentaire engagé, super-héros, films de guerre, débats de société ou dessins animés manichéens. Bref, rien de bien attirant. Et en ces temps difficiles et plutôt moroses, moi j'ai envie que le cinéma me fasse rêver. Et je me dis que peut-être vous aussi. Et ça tombe bien, figurez-vous, car il arrive enfin en DVD ce film qui m'avait tant ému cet été. Un de ces films simples et doux qui m'a donné envie de rester dans la salle obscure un peu plus longtemps et de ne pas quitter cet instant sublime comme suspendu encore dans la magie d'une belle histoire, une parenthèse enchantée dans ce monde de brutes. Ce film de Bruno Barreto, c'est Reaching for the Moon, qui veut dire « Atteindre la Lune », un vrai film d'amour, romanesque et passionné. Tiré d'une histoire vraie, il est le portrait d'un couple et des deux femmes qui le composent. Elizabeth Bishop, la poétesse reconnue entre autres par un prix Pulitzer, et l'architecte Lola de Mercedo qui a conçu le parc Flamengo à Rio. Deux femmes extraordinaires, deux destins hors du commun, qui vont vivre une histoire d'amour pendant 15 ans, au cœur d'un Brésil des années 50. J'ai dégusté ce film comme on boit un verre de caipirinha, comme on écoute une bossa nova ou comme on regarde le soleil se coucher. Il se dégage une sensualité subtile, des élans retenus, de la justesse dans les propos et dans les images, provoquant des sensations de rêve. Ce genre de film qui vous donne envie d'aimer avec passion. Ce film a transporté au cœur de paysages brésiliens ensoleillés, chaleureux, exotiques, et je fus littéralement emballée par l'histoire simple d'une rencontre et d'un grand amour, mais aussi par le destin de ces deux grandes artistes. Quelques mots sur l'histoire. Elizabeth, cette poétesse américaine coincée et diaphane, débarque timidement de New York au Brésil pour venir voir sa meilleure amie, Marie, qui, elle, vit librement en couple avec Lota, cette architecte libre, passionnée, exubérante. Venant chercher un nouveau souffle et une nouvelle inspiration, Elizabeth va se cogner à la vie, rencontrer l'amour auprès de Lota, réveillant par la même occasion de vieux démons. Reaching for the Moon a le charme désuet mais délicat, une atmosphère d'autrefois, ce je ne sais quoi de mélancolique, un brin sentimental, juste ce qu'il faut de romantisme pour nous accrocher sans jamais tomber dans le mielleux. Une émotion à fleur de peau comme sont les poèmes d'Elisabeth et comme le bouillonnement de Lota. C'est simple et beau. J'ai traversé cette histoire tel l'alanguissement de longues siestes sous les palmiers. Dès le générique, je suis happée par la beauté de la musique, superbement illustrée par la bande originale de Marcelo Sarvos. Et dès le premier plan, la poésie d'Elizabeth Bishop, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert, m'embarque dans ce voyage. Je la cite. « Dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître. Tant de choses semblent si pleines d'envie d'être perdues, que leur perte n'est pas un désastre. J'adore ce morceau, je frissonne à chaque fois et je trouve que cette bande-annonce illustre parfaitement ce beau film. Reaching for the Moon est un poème et comme la poésie, il est raffiné, passionnel et dramatique. Nous suivons leur histoire qui va passer d'un état initial de passion sublimée, d'un rêve vécu, à un désir qui s'éteint par le temps qui passe. Tout oppose ces deux femmes, à la fois dans le caractère, explosif pour Lota et réservé pour Elisabeth, que dans leur façon de vivre. Lota est visionnaire et voit les choses en immensité, alors qu'Elisabeth est dans la retenue de sa poésie intérieure. Pourtant, pendant 15 ans, elles vont follement s'aimer, chose tout à fait surprenante dans les années 50 et dans ce pays, à la veille d'une terrible dictature. Nous sommes les témoins de la réaction face à la vie. Être fidèle à soi, ses convictions, ses valeurs et faire face à l'autre, aux autres, au monde. Nous vivons avec elles la passion, leurs différences, les relations amoureuses et sociales, la beauté, les erreurs, leur carrière exceptionnelle, leurs faiblesses et bien sûr les démons intérieurs et les parts d'ombre qui détruisent. Elisabeth et son alcoolisme, Lota sa passion pour ses engagements politiques et professionnels qui vont peu à peu user ce couple. Une réalisation classique mais belle. Il n'y a pas de suivi chronologique de l'histoire, le réalisateur s'est attaché à nous montrer le temps qui passe par le vieillissement de ses personnages. Là où d'autres nous auraient saturé de mièvreries romantiques ou de clichés lesbiens, le réalisateur s'attache simplement à nous montrer une histoire de vrille. C'est donc un vrai bon film romantique. Deux actrices sont exceptionnelles. Miranda Otto, que vous connaissez peut-être, elle a joué dans Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Mondes ou dans la série Cachemire Mafia. Elle est pour moi dans la lignée de Meryl Streep et elle aurait sûrement sa place dans la course aux Oscars. Et Gloria Pires, une très grande actrice brésilienne, moins connue chez nous, mais de grand talent. Par la beauté et l'élégance de ses partis pris cinématographiques, et de cette histoire exceptionnelle, il est de ces films qui feront trace dans ma mémoire et dans mon corps. Tout comme d'autres films l'ont fait avant, du même genre, rappelez-vous The Hour, Sur la route de Madison ou Out of Africa, mais ici, version lesbienne, ce qui n'est pas le plus important. Le réalisateur a laissé d'ailleurs la question de l'homosexualité dans un Brésil des années 50, et c'est tant mieux. Ici, il s'agit d'autre chose, il s'agit d'amour. Nous sommes centrés sur une histoire de couple, une histoire de vie, et sur le destin de deux grandes femmes qui ont marqué leur temps par leurs talents respectifs. Personnellement, je préfère ça à un énième film lesbien hyper cliché que nous expliquerait encore les difficultés à vivre cette soi-disant différence. Le cinéma évolue un petit peu sur sa façon de montrer des homos qui s'aiment. À l'heure où le mariage pour tous fait encore grincer les dents des grands cons, je trouve cela formidable que l'art, et surtout le cinéma qui reste encore l'art le plus accessible, nous donne à voir une autre vision de l'homosexualité, c'est-à-dire une vie normale. Je vous laisse en compagnie d'Ella Fitzgerald et du sublime morceau Reaching for the Moon, tiré du même film de Bruno Barreto. Rendez-vous le mois prochain pour un autre film, une autre histoire.
Voilà, Rock'n'Page, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Bruno qui a réalisé la technique de cette émission. Merci à Catherine Rochette pour sa chronique cinéma. Prenez bien soin de vous.
Vous pouvez retrouver tous les numéros de l'émission sur le blog consacré à celle-ci. Vous tapez thisisrockandpage.blogspot.com. Prenez bien soin de vous.
So near and yet so far from me, and here.